un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Sa prise de conscience commence quelques années avant la révolte ayant suivi la mort de Mahsa Amini en Iran. C'est du moins ce que Mitra Hejazipour, qui possède alors la distinction la plus prestigieuse qu'une joueuse d'échecs puisse obtenir, en dehors de championne du monde, raconte à Razal Golshiri dans les colonnes du Monde. Elle se souvient ainsi que durant l'hiver 2018 déjà, quelques courageuses femmes iraniennes, et parfois même des femmes en tchador, s'étaient juchées sur de petits poteaux électriques dans quelques grandes villes d'Iran. Tenant un bâton à la main, elles y avaient accroché un foulard qu'elles secouaient au vent pour dire qu'elles n'en voulaient plus, non pas du voile islamique, mais de l'obligation de le porter. « Ce mouvement a été pour moi comme une claque », déclare-t-elle à Razal Joun. Et c'est ainsi aussi qu'un an plus tard, le 25 décembre 2019, alors que Mitra Hejazipour se trouve à Moscou pour participer aux couleurs de l'Iran au championnat du monde de blitz, c'est-à-dire des parties d'échecs très rapides, elle refuse de se couvrir la tête et arbore fièrement une queue de cheval qui va lui coûter l'exclusion de l'équipe nationale iranienne d'échecs. Mais elle sait aussi que la queue de cheval va l'empêcher de rentrer en Iran, et c'est à Brest, dans notre Finistère, qu'elle trouve alors refuge et vit jusqu'aujourd'hui. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, voici deux autres histoires d'échecs et de libération, d'échecs et de réussite, par Valérie Borst.
Donc, je m'appelle Faïm Mohamed, j'ai 23 ans. J'habite à Paris, je suis un étudiant aujourd'hui en école de commerce. Et en parallèle, donc, j'étais un ex-joueur d'échecs à haut niveau, notamment chez les jeunes, où j'ai fait champion de France d'échecs de moins de 12 ans, champion du monde scolaire de moins de 13 ans et plusieurs fois d'autres titres. Donc moi, je suis originaire du Bangladesh, donc c'est là-bas que tout a commencé. Très tranquille comme famille, on n'était pas du tout dans la misère, pas du tout dans la pauvreté, mais on n'était pas non plus ultra riche. On avait une petite maison, donc on vivait très correctement, on manquait de rien. Et puis c'est un peu le premier tournant de ma vie, puisque vers l'âge de 6 ans, c'est le moment où j'apprends les échecs. Je m'ennuyais à la maison, donc j'accompagne mon père qui lui est un amateur du jeu d'échecs, il en jouait pas mal en club. Je suis juste curieux sur le moment de savoir un peu plus, donc je pose des questions à mon père en rentrant. Puis finalement, je commence à en faire de la compétition, je commence à bien aimer. Les échecs, c'est très... Chaque partie est différente. Il y a tellement de combinaisons possibles. Si on compte tout, théoriquement parlant, il y a plus de, je crois, 10 puissance 120... possibilités, donc plus d'atomes dans l'univers, il y a plus de possibilités aux échecs que d'atomes dans l'univers, donc alors qu'en fait c'est 64 cases, hein, on va pas très loin, et c'est un petit échiquier et quelques pièces. En fait, plus on comprend le jeu, plus on est fasciné, plus c'est subtil, voilà, beaucoup de stratégies, réflexion, il y a du stress, et donc tout ça, moi, ça me plaisait beaucoup. Je commence à avoir un niveau très correct, pour mon âge en tout cas, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc j'avais peut-être 1800 et quelques élos à l'âge de 8 ans, ce qui est vraiment beaucoup. Donc dans les moins de 8 ans, je devais facile être, je pense, top 10 mondial. Très vite, je suis apparu dans les médias, parce que justement, je performais. Au début, j'ai commencé à jouer contre des petits en fait, entre enfants. Mais après, très vite, voilà, j'ai commencé à jouer avec les adultes et tout, et... Sur certaines photos, on me voit dans les journaux où on empile plein de chaises pour que je puisse jouer, en fait. Parce que j'étais trop petit pour atteindre la hauteur des tables, en fait. Au-delà du Bangladesh, j'ai fait beaucoup de tournois en Inde, donc ça faisait du bruit. Moi, je me rendais compte de pas grand-chose, je jouais mon jeu. Mais en fait, voilà, c'est là où on a vu de l'insécurité à commencer, parce que on a reçu des menaces par jalousie, parce que mon père était un opposant politique. Et ce qui a fait que j'étais une cible. Enfin, il était la cible, mais c'était plus facile quand même de passer par moi. C'est pas un jeu de ces menaces-là. Je veux dire, c'est des gens qui sont capables de passer à l'action. Ce sont des gens qui, quand ils disent des choses, ils peuvent le faire. C'est pas que des menaces dans le vent. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Et donc, voilà, on se sentait en danger et il fallait quitter le pays. C'était la chose à faire. Enfin, c'était assez soudain, en fait, pour moi. C'est arrivé assez vite, d'un coup, sans que je comprenne tout ce qui se passe. Donc, on était deux, on est parti à deux. Et le reste de la famille, donc bah, mon petit frère, ma sœur et ma mère, ils sont restés au Bangladesh. C'est comme ça qu'on est arrivé en France. Et puis, une nouvelle vie commence. Une vie où donc, je connais pas la langue, les cultures, la culture, la météo. Tout est les gens, tout est en fait, voilà, tout le monde est différent. Le problème, évidemment, quand on arrive en France, c'est qu'on est sans papier, et ce qui fait qu'on n'a pas le droit de travailler. Mon père n'a pas le droit de travailler, mais il essaie de travailler au black. Parfois, il vendait des choses dehors, enfin à la sauvette, quoi. Donc, ça peut être, je sais pas moi, des tours Eiffel comme des jouets, des fleurs. Après, il a fait aussi parfois des choses dans le bâtiment, enfin des chantiers, au chantier. Une famille bangladaise nous accueille pour quelques mois. Après, on fait notre demande d'asile politique. Et après, donc, on est envoyé au foyer à Créteil. Donc, on vivait à France Terre d'Asile. Alors, on nous donnait de la bouffe et une aide financière de 300 euros par mois. On est certes logé et nourri, mais il y a quand même une famille, le reste de la famille au Bangladesh qu'il faut aussi aider. Donc, financièrement, c'est forcément compliqué. Bah, après, c'était aussi le moment où on nous disait qu'il fallait apprendre la langue. Donc, enfin, lui, il avait droit à des cours de français. Moi, j'allais à l'école. Bah, en 3 mois, j'ai appris la langue. C'était le moyen pour moi de me faire des amis, de sociabiliser, de jouer, de sortir. Sinon, on ne comprend pas les autres. Pour moi, c'était important et j'ai compris que c'était ma nouvelle vie, surtout. Et donc, scolairement parlant, tout va plutôt bien. J'étais content, j'avais des amis, je parlais la langue. C'était une bonne culture, une culture qui me plaisait. En fait, j'étais très bien ici. Et donc, en parallèle, donc, je joue aux échecs. Je suis inscrit au club d'échecs de Créteil. Je commence à jouer. J'ai un bon niveau, toujours, pour mon âge. Mais voilà, donc je faisais des tournois à droite, à gauche. Bah, c'est là que j'ai rencontré, donc, à l'époque, Xavier Parmentier, qui m'a tout de suite pris sous son aile. Il savait que j'avais pas les papiers, il savait que quand on vivait une situation difficile, donc il nous a aidés, voilà, beaucoup plus qu'un entraîneur d'échecs devrait le faire. Non seulement il me donnait des cours d'échecs gratuitement, même parfois il nous aidait financièrement, sinon on n'y arrivait pas. Et c'est là qu'en fait, bah, en 2010, on se prend notre premier refus d'asile politique. Voilà, obligation de quitter le territoire français. C'était quand même compliqué. À un moment, on baisse les bras. Hein. On se dit. Enfin, mon père, il commençait à se dire bah, est-ce qu'il ne faut pas partir de la France? Parce que ça ne marche pas en France. Parce qu'entre-temps, évidemment, du coup, on a fait des demandes exceptionnelles à la préfecture, en fait, du Val-de-Marne. On a récolté des pétitions, plus de 1 400 signatures. Le maire de Créteil, à chaque fois, il soutenait mon dossier. La Fédération française des échecs soutenait mon dossier. Le club d'échecs de Créteil, avec plein de gens mobilisés, plus les pétitions. On s'est fait refuser notre demande, je pense, je sais pas, 5 fois, 6 fois. Donc c'était plus l'asile politique, mais voilà, un titre de séjour. Donc on était perdus, on ne savait pas quoi faire. Vraiment, il y a eu des moments de joie, de larmes, de tristesse, de désespoir. Donc voilà, le France Terre d'Asile nous dit qu'ils peuvent plus nous garder. Il faisait froid. Mais en fait, toutes les 2 semaines, on devait appeler le 115 pour savoir si notre hôtel est renouvelé ou pas. Donc on commence à nous faire balader à droite, à gauche, une fois à Paris, une fois à Valenton, une fois à Saint-Maur. La situation est un peu tendue, on peut rien ramener avec nous. Enfin, on a des valises et on fait le tour du Val-de-Marne ou de Paris, tout le temps. Et en termes d'école, c'est compliqué. Je me retrouve parfois loin de l'école, loin du club d'échecs. On ne sait pas si on va être renouvelé. Bah, jusqu'au jour où ça arrive, en fait. Ça finit par arriver, on nous dit, en fait, bah, ça fait peut-être un an, on ne renouvelle plus l'hôtel. On ne sait pas où aller. On ne sait même pas à qui le dire et quoi dire à qui, en fait. Bah, en fait, on va au club d'échecs de Créteil et on dort dans le club d'échecs, en fait. Je dormais sur le canapé et mon père dormait sur une table, quoi. On avait eu un petit truc pour cuisiner. Voilà, il y avait des toilettes. Pour les douches et tout, c'était plus compliqué. On essayait d'aller chez des gens. Voilà, on essayait de se débrouiller autrement. Pas d'argent, pas de papier, pas de logement. Bah, évidemment, le niveau aux échecs ne progresse plus. Hein. Enfin... Et puis, je me souviens un jour, bah, mon entraîneur Xavier Parmentier, il m'avait engueulé. Enfin, il nous avait engueulé en sachant qu'en fait, ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas mangé. Enfin, il avait donné de l'argent à mon père en disant que c'était pas possible, qu'il fallait manger. Bon, on était là, bah oui, mais en même temps, on sait pas comment. Et puis, bah, ça commence à tourner, les bruits comme quoi. Bah, on vivait dans le club d'échecs. On vivait discrètement. Bah, on nous a dit qu'on peut plus vivre dans le club d'échecs. Et on a dû dormir dehors pour de bon. Quelqu'un nous avait donné une tente quechua. Et on s'est retrouvé à dormir à côté d'un pont vers Boulogne pendant 3 mois. Ça s'est passé comme ça. Et c'est là qu'on arrive en avril 2012, où je gagne le championnat de France d'échecs. Vraiment, les étoiles se sont alignées pour ce tournoi-là. Et franchement, j'ai gagné qu'une fois les championnats de France d'échecs jeunes dans ma vie. Et je pense que c'est parfait, quoi. Les fois d'après, ça n'aurait pas été aussi bien, aussi émouvant. C'était assez particulier. Et c'est là que, en fait, mon entraîneur d'échecs fait une annonce sur Facebook qui dit... Fahim, champion de France, 11 ans sans papier, champion de France, quelque chose comme ça. Et là, voilà, engouement, une vague médiatique qui commence, tout le monde s'en mêle. C'est en pleine élection présidentielle, le deuxième tour. Donc il y avait 2 semaines et pendant ces 2 semaines, on parlait des élections et on parlait de moi. Au début, j'avais beaucoup honte de ma situation. Les gens, par exemple, de ma classe et tout, ne savaient pas forcément que j'avais pas de maison, que j'avais pas d'argent, voilà. Je me fondais dans la masse, j'étais quelqu'un de très normal. Et en fait, bah, jusqu'à ce que l'histoire arrive aux oreilles de François Fillon, qui était du coup Premier ministre à l'époque. Et ouais, donc la semaine qui a suivi, on était régularisés. J'ai eu les papiers. Et donc, ils ont donné. Après, le maire de la ville nous a aidés pour trouver un logement, un travail pour mon père. Et on lui a trouvé une place dans une cantine, à la plonge. Donc il travaille là-dedans encore aujourd'hui. Et puis en 2014, arrive ma famille. Bah, depuis, on est tous réunis, nouveau départ pour tout le monde. J'ai tout d'un Français aujourd'hui, je ne suis jamais retourné au Bangladesh depuis. Je vis en France et j'ai arrêté les échecs quand j'ai commencé la classe prépa, en 2019. J'ai complètement arrêté et j'ai essayé de reprendre l'année dernière et puis je me suis rendu compte que non, c'était bien d'avoir arrêté. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je donne des cours d'échecs. J'adore ça. C'était très bien comme ça, en fait. J'étais moins passionné qu'avant. Donc, c'était naturel pour moi d'arrêter. Et c'est bien comme jeu. Juste moi, j'avais fait mon temps. J'en avais fait pendant 12 ans, finalement, j'en ai fait à haut niveau. Et avec des hauts, des bas. Les échecs, c'est... Bah, au début, c'est compliqué parce que c'est ce qui a fait que j'ai dû fuir le Bangladesh. Et aujourd'hui, oui, c'est ce qui m'a sauvé, clairement. En fait, donc ça a joué les deux rôles. C'est un peu les choses qui se sont rééquilibrées, finalement. Ça avait mal commencé et puis finalement, les échecs m'ont rendu ce qu'ils me devaient, quoi. C'est un peu ça. Donc, voilà.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Mohamed Iberaken, j'ai actuellement 18 ans. Je dirais que je suis calme, parfois je peux être agité, parfois je réfléchis, je suis penseur. Parfois je suis drôle, parfois je peux sortir des mots que ça pourrait faire rire des gens. Ça fait 10 ans, je crois, oui, que je joue aux échecs, oui. Une dizaine d'années, oui.
Je m'appelle Malika Iberaken, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Donc l'histoire de Mohamed, elle commence à l'âge de 2 ans, où moi, en tant que maman, je décèle quelque chose qui ne va pas chez Mohamed. Il ne nous regardait pas dans les yeux, il avait tendance à crier beaucoup. À 2 ans, il ne disait toujours pas papa ni maman, il ne parlait pas. Et mon mari, pour me rassurer, me dit « Mais non, c'est un enfant feignant, il prend son temps pour grandir. » Mais c'est à l'âge de 3 ans, quand il a dû rentrer, en tout cas à l'école, c'est là où on a réellement décelé que Mohamed avait une problématique. Mohamed est autiste. Et de là, je me suis dit, faut pas que je baisse les bras. Il va falloir que je me batte pour essayer que mon enfant puisse avoir un avenir et qu'il devienne autonome, surtout. Voilà, c'était vraiment mon objectif et c'était mon combat. Et donc, on nous a dit clairement que Mohamed n'était pas apte à intégrer une école lambda, hein, un cursus normal. Donc, on a dû monter un dossier MDPH pour qu'il puisse intégrer un institut médico-éducatif. Donc j'ai été au culot, j'ai pris mon fils par la main et j'ai été au sein de l'institut parce que par téléphone on ne nous prenait pas. Et juste avant de rentrer au sein de l'IME, je me suis mis au niveau du regard de Mohamed. Lui, il avait toujours le regard qui fuyait. Je lui ai dit « S'il te plaît mon fils, vraiment c'est ton avenir qui se joue aujourd'hui, s'il te plaît ne crie pas, ne saute pas ». Soit un enfant modèle. Donc, je ne sais pas s'il a compris mon désespoir. Et il est rentré, il n'a pas fait, il n'a pas sauté, il n'a pas crié. Mais vraiment, il a écouté sa maman. C'est là où on a commencé à souffler. Donc, il a intégré l'IME avec des professionnels investis. Et donc, la psychomotricienne, Madame Ouchakov, elle m'avait dit « Madame Iberaken, si vous voulez aider votre enfant, faites-lui découvrir un maximum de choses. » Et ça, c'est vraiment resté ancré dans ma tête. Et c'est vrai que dès que j'avais la possibilité d'inscrire quelque part Mohamed pour qu'il puisse s'ouvrir au monde, on l'a fait. Donc, Mohamed, la première activité qu'il a faite, c'est la musique. Après la musique, donc, on nous a dit la relation avec l'animal, ça peut aussi aider les enfants autistes. Donc il a fait de l'équitation. Après, on s'est dit on va lui faire découvrir le sport. Il a fait de l'athlétisme. Après, il a fait du jujutsu. Voilà, on a essayé de lui faire découvrir beaucoup de choses. Mais je dirais que quand il a découvert les échecs, et là, c'est là où... Au niveau des compétences, il a explosé. Les échecs ont révélé Mohamed.
Au départ, moi, j'étais turbulent.
C'est pas que t'étais turbulent.
Non, pas turbulent, mais je veux dire, je faisais du bruit, etc. J'étais agité. Et au départ, je perdais toutes mes parties parce qu'à ce moment-là, j'étais débutant. Je savais pas exactement comment faire échec et mat, comment bien développer les pièces, etc. J'étais avant-dernier, dans mon premier tournoi, j'étais avant-dernier. Je savais pas contrôler mes émotions, je savais pas comment réagir face à ce classement qui me paraissait très décevant, qui me paraissait très démoralisant et... Je pleurais, j'étais en colère, j'étais à chaque mot et à chaque reproche, je me mettais dans tous mes états et c'est pénible. Et petit à petit, je m'attachais au jeu d'échecs. Je me suis habitué à l'environnement, je me suis habitué, j'ai l'habitude d'être patient, de bien se poser tranquillement et de comprendre la position et d'essayer de la décortiquer. Décortiquer les avantages, les faiblesses. Et... En général, la tactique, c'est vraiment l'aspect le plus important aux échecs. Parce que si tu ne travailles pas la tactique, tu risques de perdre des pièces ou voir ta dame. Ce qui m'a intrigué le plus, c'est Je dirais la petite tour parce que la tour, il est simple à déplacer, c'est pas prise de tête, etc. Alors que moi, je suis du genre tête en l'air parce que parfois, ça m'arrive parfois d'oublier des choses. C'est mon point faible. Voilà.
Mohamed, quand il a découvert les échecs, en effet, ça l'a intrigué. Et puis après, j'ai vu que dans son comportement habituel, d'habitude, il était vous savez, les mains serrées, et il sautait. Et plus on avançait dans le temps, et plus je voyais que Mohamed s'asseyait, qu'il restait pratiquement les 2 heures assis. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui changeait chez Mohamed. Le fait qu'il s'assoie devant un échiquier à réfléchir, le fait qu'il se concentre et qu'il ne bouge pas, bien évidemment. Moi, j'ai remarqué tout de suite, je me suis dit, mais déjà rien que ça. Mais j'étais super heureuse. Les échecs lui ont permis de se canaliser. Et ça, ça n'a pas de prix. Et puis, ça s'est confirmé par la suite. Le langage, si vous voulez, il ne parlait pas. Il criait, il faisait « ah, ah, ah ». Il faisait des sons un peu bizarres où il criait. Quand il a découvert les échecs, c'est là où il y a eu son évolution. Après chaque tournoi, il fallait échanger. Qu'est-ce que tu as fait comme stratégie ? Il était obligé de parler. C'était formidable. C'était un pas en avant dans sa vie future. Vous ne pouvez pas imaginer le fait qu'un simple jeu d'échecs, un simple jeu puisse permettre de débloquer sa situation. Mohamed, quand il était petit, moi je me rappelle, je joue des petites anecdotes comme ça, le vendredi soir on allait chez mes beaux-parents et ils avaient une machine à laver à tambour. Mohamed, si je le retirais pas devant la machine à tambour qui tournait, eh ben, il pouvait rester toute la journée à regarder la machine. Et je vous dis, ce jeu d'échecs a permis à Mohamed de s'ouvrir. De s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde. Ça a aidé mon fils, ça peut aider d'autres enfants. Ça m'en donne des frissons. Et petit à petit, donc Mohamed a fait voir ce qu'il valait. Et dans les classes dites normales, il faisait partie des meilleurs élèves de sa classe. Donc ça allait crescendo, que de bonnes notes, 18,5 de moyenne en pratiquement chaque année. Quand il est arrivé en sixième, on nous a dit, au bout du premier trimestre, on nous a dit, Mohamed, il n'a rien à faire en sixième, il faut le faire passer en cinquième. Et nous, on n'a pas voulu. Et ça s'est reproduit jusqu'en quatrième. Donc, en quatrième, il n'a rien à faire. En quatrième, il fallait qu'il passe en troisième. Et nous, on n'a pas voulu. Mon mari et moi, on n'a pas voulu. On s'est dit, ça fonctionne bien. Il s'entend bien avec ses camarades de classe, on va pas le perturber. Et puis à la fin du collège, donc il fallait passer au lycée. Donc on s'est dit, au lycée avec Mohamed, on s'est dit, mais pourquoi pas viser, pourquoi aller dans un lycée de quartier ? On s'est dit, t'as les compétences, t'as des bonnes notes, t'as envie. Et du coup, il était d'accord. Et puis après, on a pris notre ordinateur et on a regardé un petit peu les lycées. Et puis d'un coup, on voit le lycée militaire de Saint-Cyr. On s'est dit, pourquoi pas un établissement prestigieux et pourquoi pas envoyer un dossier de candidature. C'était le plus beau cadeau qu'on pouvait nous faire et lui faire surtout. Je suis très contente parce qu'il prouve encore aujourd'hui qu'il en est capable. C'est dur, c'est pas le même niveau, mais il s'acharne.
C'est le même programme.
En effet, c'est le même programme, mais c'est pas le même niveau. Les élèves qui sont dans ta classe, c'est des élèves qui sont quand même à un niveau scolaire très élevé. Donc aujourd'hui, il est au lycée, il s'accroche, il a des bons résultats. Il a eu le tableau d'honneur, là, le premier trimestre de sa première, donc c'est ça, hein.
Et juste, il faut, je préfère pas qu'on parle de tableau d'honneur, etc. Ça me perturbe. C'est pénible. C'est saoulant. C'est toujours la comparaison avec l'autre, avec le résultat de l'autre. Alors que tu fais ça pour toi. Et parfois, quand quelqu'un dit « Oh, j'ai telle note », c'est chiant, tout simplement. C'est chiant. Pardon pour mon langage, mais c'est pénible. Je supporte pas ça. Tu te gâches la vie pour comparer aux autres par rapport aux notes, alors qu'il y a d'autres aspects de la vie.
Pour moi, cette société, c'est d'être toujours dans la comparaison. Celui qui est meilleur, il s'en sort plus que celui qui n'est pas meilleur en autre, alors qu'on ne prend pas en considération d'autres qualités. Par exemple, les échecs ou d'autres aspects, comme par exemple l'artisanat. Ça ne reflète pas leurs vraies, véritables compétences dans la vie quotidienne. C'est grâce aux échecs que ça m'a permis de devenir la personne que je suis maintenant.
En tout cas, les échecs ont révélé chez Mohamed cette niaque, cette envie de réussir quand il a une idée en tête. C'est pas une personne qui baisse les bras. D'ailleurs, il vous l'a pas dit, mais Mohamed, un de ses objectifs aussi dans sa vie, c'est devenir maître d'échecs.
Il y a plusieurs types de titres de maître. Il y a candidat maître, maître FID, puis maître international et grand maître. Je sais que ça sera très très difficile, mais tant qu'il y a du progrès, je suis content. Ça m'arrive de m'entraîner aux échecs dans l'ordinateur et je regarde des vidéos d'échecs et je regarde aussi des vidéos du développement personnel. Comment s'améliorer dans la vie de tous les jours, comment je peux m'améliorer sportivement, intellectuellement et comment avoir confiance en soi, comment je peux m'améliorer, voilà. Et depuis que je découvre ce genre de choses, c'est là depuis je commence à mieux percevoir les choses, de percevoir différemment le monde. Je vais très bien, ouais. Ouais. Hey, I came back. Just got lost for a second. I hope you understand. Someone to hold on to.
C'était « Des échecs à la réussite », un reportage de Valérie Borst réalisé par Vincent Abouchard et mixé par Jean-Guy Linmège. Merci à Mohamed, à Malika Iberaken, à Fahim Mohamed, à la Fédération française des échecs, à Antonin Violette et à Pierre Plantin. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy avec Hortense Martin.
L'affaire Estelle Mouzin débute le 9 janvier 2003 avec la disparition de la fillette. En 2017, Michel Pomaret mène pour France Culture une enquête radiophonique à la rencontre des protagonistes de cette affaire. En 2023, il reprend cette enquête suite au procès de l'ex-femme du tueur Michel Fourniret, Monique Olivier.
20 ans finalement, c'est la peine qui est tombée ce soir. Mais nous espérons enfin que ce verdict va apaiser petit à petit notre souffrance.
Estelle, disparue. Un podcast réalisé par Jean-Philippe Navarre sur franceculture.fr et l'appli Radio France.